Nous allons parler aujourd'hui nano. Nanopoudre, nanomatériaux, nanoobjets, bref, de produits du futur, de la molécule au consommateur. Alors, cette émission, en fait, on l'a réalisée, on l'a pensée en perspective avec un séminaire qui va se réaliser le 29 janvier à l'Université Lille. Et donc, avec une thématique autour des produits de demain, du développement, de la conception, de la production, à la consommation. Bref, voilà, on est au cœur du futur. Vous êtes sur Radio Campus 106,6 FM avec Madame Nouria Fatah, qui est professeure des universités, qui est ingénieure en procédés et technologies des poudres à l'école de chimie de Lille. Bonjour Madame Fatah.
Bonjour M. Lavergne.
Voilà, donc... Un grand événement nous attend le 29 janvier et aussi une problématique globale qui, je pense, doit intéresser tous les citoyens et notamment les consommateurs.
Tout à fait. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité.
Je vous en prie.
Oui, nous sommes sur un air de développement et du développement du nouveau produit et surtout l'incorporation et l'ajout de nanoparticules ou nanomatériaux qui vont nous rendre sûrement la vie plus facile. Nous cherchons à fabriquer le produit de demain qui doit respecter l'environnement, qui doit être non toxique, avec moins de déchets. Et bien sûr, qui doit cibler des propriétés d'usage bien précises. Par exemple, les propriétés d'usage, c'est le goût, la couleur, la texture, la douceur, etc. etc.
Voilà, donc vous regroupez dans une association qu'on va présenter des chercheurs, mais aussi des industriels, bref, des gens qui ont une compétence et qui ont des intérêts dans... ce développement de nouvelles technologies du nano.
Oui, en fait, c'est la Société française de génie des procédés. C'est une société qui regroupe des chercheurs, des universitaires et des industriels et qui travaille sur comment peut-on concevoir, calculer, optimiser des procédés à l'échelle industrielle. Et dans cette société, il y a plusieurs groupes de travail qui vont développer, penser sur les nouveaux outils pour mieux développer la recherche dans l'industrie. Donc il y a par exemple la thermodynamique, les réacteurs, le cycle de vie, et aussi ce que je développe, où je suis responsable, c'est le génie du produit. C'est-à-dire, on doit voir, on doit penser, on doit chercher les outils, on doit lister les différents problèmes pour pouvoir apporter des solutions aux industriels pour mieux fabriquer le produit de demain.
Donc ces produits, au-delà de leur production, il faut bien sûr les anticiper, les procédés de fabrication, mais aussi les problèmes qu'ils peuvent éventuellement générer.
Tout à fait, tout à fait. L'ingénieur qui va penser au pilote, c'est-à-dire à l'unité de production du produit, doit penser sans bien sûr les nanoparticules pour un produit agroalimentaire, pharmaceutique, métallurgie, etc. Il doit tout d'abord penser à la sécurité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il doit penser au minimum de déchets, minimum d'énergie à dépenser et bien sûr aux produits qui doit satisfaire le consommateur. Donc ça, c'est en général. Et après, lorsqu'on ajoute le facteur nanotechnologie, là, on va aller travailler sur les facteurs qui impactent ce procédé, c'est-à-dire tout ce qui est toxicologie, hein, tout ce qui est santé et sécurité pour les opérateurs. En sachant, bien sûr, que même si on ne fabrique pas les nanotechnologies, on fait très, très attention aussi pour tout ce qui est contamination, hein, lorsqu'on met en place les procédés. Donc c'est un système qui est assez important, qui va faire appel à beaucoup de connaissances, des connaissances au point de vue modélisation, connaissances au point de vue mécanique des fluides, c'est-à-dire tout ce qui est écoulement de fluides, transfert thermique, cristallisation, pasteurisation, stérilisation, mélange, échange, etc.
Donc la connaissance évolue sans cesse. Est-ce que ces procédés nano existent déjà dans les labos depuis longtemps? Est-ce qu'ils sont déjà fabriqués depuis combien de temps? Et est-ce qu'on va assister à une révolution?
Oui, beaucoup de laboratoires, même à Lille, fabriquent, mettent en place des projets de recherche sur la fabrication soit des nanoparticules, soit des matériaux à base de nanoparticules pour des applications bien données. Ces projets sont soit au sein d'un appel de projet, par exemple ANR ou autre, soit ce sont des projets avec les industriels. Donc oui, la recherche va avec une variation exponentielle. Seulement tout ce qui est santé et sécurité pour les praticiens, les informations sont un petit peu fragmentées. Il faut travailler dessus pour informer l'utilisateur, informer le praticien et aussi informer le consommateur.
Donc vos laboratoires travaillent sur les produits de demain, mais ils sont déjà en préparation. Certains sont déjà en termes d'expérimentation, justement, en train d'être évalués aussi. Qu'est-ce qui va être mis sur le marché prochainement que vous connaissez déjà bien et comment se passe la labellisation, la certification, la vérification de ces produits pour justement faire qu'il soit le moins nocif possible, sinon complètement inoffensif.
C'est une très grande question. Le chercheur va travailler tout d'abord sur des petites quantités, c'est-à-dire va faire des essais. Et une fois que ces essais marchent, on a des bons résultats, on va chercher à faire une extrapolation à l'échelle industrielle. Alors, si on prend un exemple dans notre laboratoire, on développe, on travaille sur ce qu'on appelle les hydrocarbures propres. C'est-à-dire sans aromates, sans sulfates, c'est-à-dire que c'est mieux que l'hydrocarbure d'origine fossile. Ces hydrocarbures sont obtenus par une réaction catalytique où on a besoin de ce qu'on appelle un produit, un catalyseur. Ce catalyseur, il est préparé. Nous avons à l'ECCS des grands spécialistes de préparation de catalyseurs. Et on le prépare de deux façons. La façon très ancienne et conventionnelle, c'est en voie chimique. Et maintenant, on a mis en place d'autres voies plus propres en voie mécanique. C'est-à-dire on n'utilise aucun solvant. Donc déjà, là, on est parti sur un produit un peu plus propre. Et bien sûr, pour fabriquer là aussi un produit pour le consommateur aussi propre. Donc ce produit, ce catalyseur fabriqué à base de microparticules et nanoparticules, qui est la phase active, est un support et va nous permettre d'obtenir un hydrocarbure propre. Bien sûr, on commence par les petites quantités. Nous, on fait attention à toutes les manipulations des nanoparticules. Donc on a tout un dispositif de travail avec des protections, hein, la protection de la personne, la protection de l'environnement et la protection aussi que nos catalyseurs ne soient pas aussi empoisonnés par ce qui est autour. Et après, une fois que ce produit donne des bons résultats, on va travailler avec l'industriel pour pouvoir faire une extrapolation.
Donc vous parliez d'hydrocarbures. Hydrocarbures, au départ, c'est ce qu'on en utilise, tout au moins c'est ce qu'on va puiser dans le sol, sous une forme ou sous une autre, pour transformer en essence ou en fioul.
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut imaginer un jour des produits qu'on pourrait utiliser comme pour les substituer en fait à ces hydrocarbures naturels pour justement faire face à ces défis de disparition de ces richesses?
Tout à fait. La France travaille beaucoup sur les énergies renouvelables et un des axes de recherche est bien sûr cette réaction catalytique qui s'appelle le Fischer-Tropsch pour produire les nouveaux carbures. Alors, est-ce que ça va remplacer le pétrole? Ça dépend du prix du baril de pétrole. Plus il augmente, plus il est compétitif, plus il diminue, ça se discute.
Alors c'est vrai qu'on a déjà intégré dans nos réservoirs des produits issus de l'agriculture.
Tout à fait.
Donc là, ce serait la troisième dimension.
Voilà, en fin de compte, ces hydrocarbures propres vont ramener ce qu'on appelle l'hydrogène de la biomasse, c'est-à-dire de tout ce qui est soit déchets verts, bois, charbon, etc.
C'est vrai que chaque période a ses problématiques et on sent des tendances auxquelles les sociétés sont confrontées. On parlait de la disparition des hydrocarbures naturels ou en stock dans nos sous-sols. Enfin, en France, c'est encore plus complexe, mais même dans des pays qui sont des gros réservoirs, on imagine un jour leur fin. Donc, quand on est dans une période actuelle avec des changements aussi quant à l'économie de ces produits. Je vois aux États-Unis, on a trouvé de nouveaux procédés qui ont fait un peu chuter les cours. Comment on soutient et on maintient une recherche qui était au départ sur une lancée de pénurie?
En fait, quand la France développe des énergies renouvelables, elle en a besoin si jamais il y a un problème. Il faut qu'on apporte des solutions aux consommateurs. Donc ce ne sont pas les énergies les moins chères, mais on doit les développer, on doit mettre en place des installations de production. Il y a la première installation de production, par exemple, du méthane qui va se faire à Lyon par GTF Suez. Donc on voit qu'il y a un appel vers l'avenir pour fabriquer du méthane à partir de, par exemple, de la biomasse.
Notre région, dans Pas-de-Calais, elle se situe comment dans cette recherche ?
Oh, il y a notre laboratoire est très actif dans ce domaine-là. Et des projets sont énormes et sont très importants et très intéressants. Et nous avons une action assez forte au niveau de la région pour tout ce qui est biocarburant.
Est-ce que les ressources de la région ou les spécificités régionales amènent votre laboratoire à réfléchir sur des problématiques qui sont particulières ?
Ah, tout à fait. Nous avons des actions avec nos partenaires de la région Nord-Pas-de-Calais qui financent certains projets, justement dans cette thématique-là, tout ce qui est bioprocédé ou biocarburant.
Donc ce travail que vous menez au quotidien, ça représente en fait dans les labos des équipes nombreuses ?
Nous sommes plusieurs équipes, chacun il a sa spécialité et justement c'est le travail ou le travail en réseau et chacun va ramener sa spécificité qui va donner un produit de demain de grande qualité. En sachant que, bien sûr, tous ces développements-là ne sont pas seulement dédiés à l'hydrocarbure. On travaille aussi avec les pharmaciens. On travaille aussi avec les gens de l'agroalimentaire. Donc, aller chercher des nouveaux solides qui ont une nouvelle fonctionnalité sont utilisés, le solvant, ça intéresse aussi les pharmaciens, par exemple. Ça intéresse aussi le secteur agroalimentaire ou cosmétique.
Donc c'est vrai que ces solvants, on peut rappeler qu'ils sont dangereux d'une manière générale.
Tout à fait, oui.
On peut peut-être donner quelques noms. Les plus dangereux sont lesquels dans les solvants?
Je pense que je ne vais pas me prononcer, non. Sinon je vais avoir beaucoup, beaucoup d'ennemis.
Bon, on va avoir un procès sur la radio, ce n'est pas la peine. Mais donc, mieux on s'en passe, mieux c'est, quoi. Plus on s'en passe,
ah oui,
mieux
tout
c'est.
À fait, si on peut le faire. En fait, lorsque vous allez changer, faire une rupture technologique, ce n'est pas facile. Ça veut dire qu'il faut mettre le compteur à zéro. Si on prépare un produit agroalimentaire ou un produit pharmaceutique ou cosmétique à base de solvants et du jour au lendemain on va dire non, on va ne pas utiliser le solvant, on va utiliser autre chose, on va remettre toutes les études, toutes les expériences à nouveau et on va tout tester pour faire pareil ou pour faire mieux.
Donc si on prend ces solvants, ils sont certainement frais. Fabriqués par des entreprises, par l'industrie, on va dire. Est-ce que, justement, ça peut aussi leur faire peur que de perdre leur activité ? Est-ce qu'il y a des lobbies ?
Peut-être dans 50 ans, mais pour l'instant, on est encore à l'état de recherche et de perspective. Mais on peut travailler ensemble pour leur donner peut-être une autre voie de développement et une autre voie de ressources.
Donc c'est vrai que notre pays, la France, a donc des laboratoires de qualité. Elle a des problématiques qui sont, on va dire, particulières avec le peu d'énergie fossile qui reste, on va dire. Et que, pour le coup, comment les problématiques françaises permettent aussi d'amener nos compétences au niveau du monde entier ? Est-ce qu'il y a une universalité de votre recherche et un besoin qui se fait dans d'autres pays, sinon dans le monde ?
Oui, ceci se fait à travers ce qu'on appelle les congrès ou les séminaires. Donc, par exemple, il y a le congrès de génie des procédés européen à Nice en 2015, au mois d'octobre, qui va regrouper beaucoup de secteurs d'activité tels que l'agroalimentaire, l'énergie, la cosmétique, pharmacie, et tous ces gens-là vont présenter leurs travaux sur les nouveautés. Donc c'est ça ce qui fédère un petit peu la science de chacun, c'est ça qui va nous permettre d'échanger, c'est ça ce qui va nous permettre aussi d'avoir des idées et de progresser.
Voilà, donc on va parler maintenant d'une journée particulière qui aura lieu à l'école centrale de Lille de 9h à 17h le 29 janvier. Donc le titre est très long, je vais vous laisser la, la oui. responsabilité de le prononcer.
Ben oui, il faut juste que je trouve...
Sinon
donc,
je...
ouais, non, c'est bon, c'est bon. Donc en fait, compte, ce qu'on, avant de lire le titre, ce qu'on cherchait à faire, c'est de fédérer, de trouver une journée où on va fédérer différentes spécialités autour d'une problématique, c'est-à-dire fédérer des gens qui viennent du secteur industriel et bien sûr des académiciens. Donc nanopoudre, nanomatériaux, nanoobjets, produits du futur, de la molécule au consommateur. Pourquoi ? Parce que nous avons dans la thématique génie du produit, on cherche maintenant non pas à former des étudiants sur une spécialité bien déterminée, mais on veut qu'un cadre qui a une vision un peu plus large, c'est-à-dire multi-échelle de la molécule, il sait faire une préparation et il doit savoir pour qui, c'est-à-dire le consommateur. Qu'est-ce qu'il veut le consommateur ? Donc cette vision-là va lui permettre peut-être de mettre en place un produit plus intéressant.
Alors c'est vrai que c'est nouveau, mais c'est aussi un retour en arrière avec la culture large que devait avoir à un moment donné le scientifique.
Oui, oui, tout à fait. Et le consommateur, le côté consommateur, c'est-à-dire on va essayer de scruter, de savoir un petit peu sa psychologie de raisonnement et qu'est-ce qu'il veut, est-ce qu'il veut un produit l'utiliser, le jeter, s'il le jette pourquoi, est-ce qu'il ne faut pas faire un produit biodégradable qui va l'utiliser un certain temps. Donc ça, tout ça ce sont des études, des préparations. Et justement cette journée-là on va regrouper des gens qui sont spécialistes en génie du produit, génie du procédé, tout ce qui est métrologie, et aussi des gens de la toxicologie, des spécialistes de toxicologie, par exemple des gens de l'INERIS, de l'Institut Pasteur de Lille, sur la santé, sur l'environnement et l'éthique, parce qu'on travaille, on fait ce séminaire aussi avec l'ICAM.
Donc, je suppose que quand on parle d'éthique, il y a des comités qui existent de vigilance, non ?
Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce type de séminaire. En fait, contre les séminaires de nanopoudre, il y en a peut-être un tous les jours. Il y en a pas mal. Hein. Et je pense que ce n'est pas assez, parce qu'on a beaucoup de questions, on n'a pas beaucoup de réponses. Et ces séminaires vont nous permettre... Et justement, il y a une table ronde à la fin où on va poser des questions très simples. Dites-nous, aux industriels, on pose la question aux industriels, qu'est-ce qu'on doit faire ? Dans quel axe de recherche on va y aller pour développer nos recherches pour fabriquer le produit de demain ? Plus sûr, moins toxique, moins dangereux et bien sûr performant.
Voilà, donc on est... Pour certains d'entre vous, peut-être, au début d'une aventure, quelqu'un qui a trouvé une nouvelle molécule, est-ce que c'est un rêve pour certains des chercheurs ?
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Même une installation, c'est-à-dire un petit procédé, une réaction. Ah oui, c'est super. Ah oui, mais c'est très intéressant. Après, nous les chercheurs, on aime bien travailler avec des industriels parce que c'est eux qui ont les problèmes, c'est pas nous.
Ils ont aussi l'argent parfois, non ?
Oui, bien sûr. Ça, je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez bien deviné. Et c'est très intéressant et enrichissant.
Donc, on imagine que les progrès vont aller vite maintenant. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de quelque chose qui est déjà dans les cartons et qui risque de sortir prochainement ?
Lorsqu'il y a des produits à base de nanotechnologie, je ne pense pas qu'ils viennent me les confier à moi. C'est toujours très, très, très secret. Ce sont des brevets en général qu'on dépose. Mais je peux vous donner des choses qui existent déjà. Par exemple, au niveau pharmaceutique, vous prenez un médicament, vous avez mal au ventre, vous prenez un médicament. Si ce médicament ou ce produit actif, on le met dans une petite capsule. Et si cette capsule ne va s'ouvrir ou s'éclater qu'avec l'acidité de votre estomac, c'est très bien. Comme ça, elle ne va pas réagir au niveau de votre gorge. Par exemple, vous utilisez un déodorant à base de microcapsules où il y a un produit actif. Il va agir que quand vous transpirez. Donc, etc., etc. Donc, on cible, en fin de compte, le problème à résoudre autant qu'il faut l'espace et aussi qu'il soit le plus performant possible.
J'allais dire, on est dans de la chirurgie fine.
Alors, je laisserai les spécialistes, je pense, cette journée-là, de nous parler justement. Il y a beaucoup, beaucoup de développement et de progrès dans le domaine de la chirurgie où je suis incapable de développer. C'est pas mon domaine.
Donc voilà, au fil du temps, on avance. Alors, bien sûr, pour vous, on progresse. Certains vont dire, il faut bien réfléchir. Il y a des enjeux importants.
Tout à fait. Il y a des enjeux économiques très importants au niveau industriel. En fin de compte, ce qu'on cherche, c'est surtout, bon, ça c'est un petit peu par la suite, c'est que d'éviter que la délocalisation des industries françaises. Voilà, c'est ça. Et l'innovation du produit va nous permettre de mettre en place des industries en France et d'être compétitives. C'est ça.
Est-ce que cette délocalisation dont vous parlez comme éventuellement une concurrence, mais aussi un danger peut-être, peuvent être moins éthiques que ce qui est fait en France ?
Alors, si vous permettez, est-ce que vous pouvez répéter votre question ?
Je veux dire que, est-ce que d'autres producteurs, enfin d'autres unités de production ou de recherche, pourquoi pas, pourraient avoir moins de réflexion sur les responsabilités qu'elles pourraient avoir.
Je pense pas. Je pense qu'elles vont rester. Elles vont pas se délocaliser et elles vont peut-être modifier leurs produits pour être compétitives.
D'accord. Est-ce que vous sentez des pays concurrents dans ce domaine ?
Les États-Unis sont des pays qui ont commencé avec tout ce qui est nanotechnologie. Oui.
Alors comment on peut, je ne vais pas dire les contrer, mais comment on peut être encore en position de force, sinon de domination ?
Eh bien, c'est grâce à tous les chercheurs français, c'est grâce à leur motivation, c'est grâce à l'aide de l'État, l'aide des régions, qui vont nous permettre d'avancer. Je pense qu'il y a pas mal de laboratoires qui font du très, très, très beau travail. Et on ne peut que les féliciter et les encourager.
Donc vous mentionnez l'aide des collectivités, donc ce qui veut dire que le citoyen finance bien sûr ses études. Est-ce qu'il a aussi un regard sur ces choses-là qui est possible ? Est-ce qu'il y a des publications qui existent, des sites internet où on peut trouver une information, voire partager des connaissances, sinon des compétences ?
Tout à fait. Il y a pas mal de choses, de rapports qui sont tout publics aussi, où il n'y a pas beaucoup d'équations. Soit en anglais ou en français, soit fait en France ou à l'échelle européenne, ou aussi il y a beaucoup de travaux qui sont faits au Canada sur un petit peu la vulgarisation des nanotechnologies et qui donne une information qui est assez franche, qui est assez intéressante aux consommateurs. Et le consommateur ne doit pas avoir peur de ces produits-là parce qu'ils sont là que pour l'aider. Donc là, justement à travers ce séminaire, on doit aussi voir comment et travailler comment on doit travailler avec le consommateur et comment on doit discuter avec lui et lui apporter l'information.
Voilà, bien, à votre disposition en tout cas de vous accueillir de façon fine sur une problématique particulière du champ de vos compétences et de vos connaissances, pourquoi pas.
Ok, merci beaucoup, merci.
Donc, on va quand même redire que le 29 janvier, c'est une journée qui se passera à Polytech.
À l'École centrale.
À l'École centrale de Lille. Qui peut venir ? C'est réservé, c'est déjà...
Les gens, on a pour l'instant plus que 80 inscrits.
Oui.
Donc la journée, elle est sponsorisée par la Société française de génie des procédés, par l'École centrale de Lille, par l'École de chimie de Lille, par l'ICAM et par le projet Nanoscope. Donc les gens peuvent s'inscrire, ils ne payent, c'est gratuit.
D'accord.
Ça permet de faire venir des enseignants-chercheurs, des industriels, mais aussi des étudiants. Et nous avons aussi des gens qui sont en recherche d'emploi, où la journée, ça les intéresse et ils peuvent s'inscrire sans aucun problème.
Comment on s'inscrit ?
Alors, comment on s'inscrit ? On envoie un email. L'email, je peux donner l'adresse mail ? Nouria, N-O-U-R-I-A, point FATA, F-A-T-A-H, arrobas, E-N-S-C, tiret Lille, .fr. Et si vous avez fait une erreur dans l'adresse, c'est pas grave. Si vous tapez Nouria Fatah, Google me connaît.
Voilà, tout à fait. Et merci Nouria Fatah. Donc je rappelle que vous êtes professeur des universités, ingénieur en procédés et technologies des poudres à l'école de chimie de Lille.
Oui.
Au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.